Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Pour être tout à fait franc, c'est que j'avais donc un micro Zoom H4. Je découvrais du coup tout juste comment ça fonctionnait. Au final, je l'ai posé un petit peu à l'arrache sur ma table de salon, sans trop orienter ni rien. Et c'est ça le côté brut en fait, c'est qu'on entend aussi quand Roman se gratte le cou ou qu'il remet sa chemise, on l'entend. Et c'est marrant parce que quand il a été nommé au concours Phonurgia Nova Awards, donc il y avait un parterre de spécialistes qui débriefaient sur ce podcast-là. Et ils ont démarré en disant ce que je prenais pour une faiblesse au départ, donc ce côté brut où on entend tout ce qui se passe dans la pièce. Ils l'ont pris pour un parti pris artistique et ça me va très bien. Moi, je dis amen, tant mieux.
Génération podcast.
Génération podcast.
Génération podcast.
Génération
podcast.
Génération.
Génération podcast.
Podcast.
Génération podcast.
Generation podcast.
Salut, salut! Vous avez eu la très bonne idée de lancer un épisode de Génération Podcast et je vous en remercie. Aujourd'hui, je vais tendre mon micro à Antoine Bonnet, le fondateur de Racontellers, contraction de raconter et de tellers, comme teaser en anglais. Jeu de mots que je trouve, soit dit en passant, extrêmement brillant. Et créateur indépendant du podcast Fluctuat Neg Mergitur, qui se compose de deux saisons dans lesquelles Antoine recueille les témoignages de deux de ses amis qui étaient à la belle équipe le soir du 13 novembre 2015 et qui nous racontent cette soirée, mais aussi et peut-être même surtout l'après, dont on n'a finalement pas tant que ça entendu parler. Avant ça, Antoine, tu es passé par Combini et Slate, notamment avec nonfiction.fr. Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Génération Podcast.
Merci beaucoup, merci de m'inviter. Bonjour à tous.
Je te propose qu'on plonge directement dans le vif du sujet. On va parler de ton travail, donc avec le podcast que je viens de mentionner, Fluctuat Neg Mergitur, j'arrive plus à parler. Dans ce podcast, je le disais, donc tu recueilles les tranches de vie de deux personnes qui te sont très proches. Et du coup, je m'interroge, comment est-ce que votre amitié, vos conversations sont devenues un podcast? Est-ce que tu as dû les convaincre ou est-ce que vous en êtes arrivé à la conclusion, peut-être collective même, que c'était évident qu'il fallait faire quelque chose finalement de cette parole?
Alors, je pense que l'évidence, on l'avait tous en tête. Le problème résidait dans les modalités, le timing et la manière dont ça allait être fait. Donc comme tu l'as dit, il y a deux saisons, c'est deux locuteurs différents et donc deux approches différentes. La première, ça a été avec Roman qui lui avait le désir viscéral de raconter son récit. Il n'avait simplement aucune idée de la manière dont il devait le faire. Et il s'avère qu'un ami m'avait prêté un micro, que j'ai une discussion avec Roman qui m'explique qu'il a envie de graver son récit dans le marbre une bonne fois pour toutes et de manière exhaustive. Je lui propose de passer à la maison pour l'enregistrer sans aucune ambition très claire derrière. Je me rends compte que ce récit va chercher très loin dans des souvenirs très détaillés, très douloureux et que je connaissais les grandes lignes mais pas vraiment le détail. Et derrière, en m'attelant au montage, je commence à me dire que ça ressemble à quelque chose. Et à ce moment-là, je me dis, bon, bah, autant le publier avec l'accord de Roman, évidemment.
Cool artiste, voilà, désolé de te répondre que maintenant, t'avoir laissé un peu en galère. Je te laisse une petite note vocale parce que j'ai bien réfléchi à ton idée d'enregistrement. Et c'est bon, bah, je me sens prêt. Je pense qu'après 5 ans, c'est le bon moment, là. Je vais pas te cacher, ça me fait un peu flipper de te raconter cette histoire. J'ai un peu peur de craquer, mais
on va se le faire en one shot.
Mais je sens que si je le fais pas maintenant, bah je le ferai jamais. Et puis j'ai envie de graver dans le marbre une fois pour toute cette soirée et tout ce qui en a découlé avant que le temps fasse son travail et que j'oublie des détails. En fait. Bref, je suis super chaud et en plus j'ai bien envie de voir la nouvelle déco de ta garçonnière. Prévois des bières.
Avec Jessica, ça a été différent, parce que son lien à ces événements-là est aussi complètement différent. On comprend quand on écoute la saison 2. Elle avait cette pudeur extrême. Roman l'avait aussi, mais Jessica avait cette pudeur. Et surtout, cette mauvaise expérience avec les médias traditionnels, on va dire, qui cherchaient plus à faire du reportage ou du format court sur leur histoire. Et eux, s'ils souhaitaient la raconter, c'était pour le graver dans le marbre pour eux, pour leurs proches, pour le grand public aussi, qui découvre un peu ce qui se cache derrière un événement qui a fait la une de tous les journaux, mais pas que, du coup. Et donc Jessica, après avoir mis un peu de temps à écouter celui de Roman, c'était pas son désir premier, mais finalement elle l'a écouté, elle s'est décidée à prendre la parole à l'approche du procès également. En gros, le procès se préparait, eux ils avaient levé la main pour témoigner, et du coup ils ont été sélectionnés pour témoigner. Et juste après leur témoignage, on s'est lancé avec Jessica, qui m'a raconté de A à Z sa soirée d'anniversaire jusqu'au témoignage lors du procès. Donc c'est très dense, c'est assez douloureux de se remettre là-dedans, mais je pense que le fait de poser des mots sur leur histoire, ça a aussi fait ressurgir tout l'amour qu'il y avait et qui guidait, qui était le fil rouge finalement de ce récit-là et de l'après 13 novembre. C'était déjà le cas avant, mais on n'avait pas l'occasion de le raconter. Là, disons que le 13 novembre, ça a été un déclencheur d'émotions qu'on avait tous en nous, mais qui ont été décuplées et qui ont renforcé les liens de façon... Pour aujourd'hui, c'est indéfectible. Donc voilà, c'était une manière pour eux d'abord de faire ce travail cathartique et ensuite de... Enfin, je sais pas, moi, je le prends comme une déclaration d'amour l'un envers l'autre, Roman et Jessica d'abord, et ensuite auprès de tous leurs proches, tous les gens qui les ont entourés et qui les accompagnent toujours d'ailleurs dans cette reconstruction qui est longue mais qui fait son chemin.
Corrige-moi si je me trompe, mais c'est tes premiers pas dans le monde du podcast. Est-ce que ça a été... finalement assez naturel, tu disais on t'a prêté un micro, du coup de leur tendre le micro et de le faire par le média podcast, pourquoi pas finalement, je sais pas, la télé, une chaîne YouTube, on parle justement de témoignages très très intimes, est-ce que c'est ça en fait la démarche, je peux pas mettre de mots dans ta bouche ?
Non mais clairement, c'est clairement ça, c'est le podcast, il y a des attributs qui correspondent tout à fait aux modalités que eux souhaitaient dans le récit de leur histoire. T'as cette forme d'authenticité, tu te sens inclus en tant qu'auditeur aussi, puisque tu te concentres sur le rythme de parole, sur la voix, sur l'intonation, sur les silences aussi. Cette histoire-là aussi, comme je l'ai dit, ils ont un rapport aux médias traditionnels qui a été assez bousculé suite à cette soirée-là et les mois qui ont suivi. Donc voilà, pour eux, c'était une façon de faire un récit, de proposer un récit complètement exhaustif, en s'affranchissant des contraintes d'une grille de programme, qu'elle soit télévisuelle, radiophonique, ce que tu veux. Donc ça, c'est de leur côté. Je pense que c'est un format qui leur correspondait très bien. L'anonymat qui va avec aussi, le fait qu'on ne voit pas leur visage. Et moi, de mon côté, disons que j'étais un consommateur très régulier de podcasts, que ayant travaillé un petit peu dans le journalisme, j'ai aperçu les ficelles, parce que ça n'a pas duré hyper longtemps, mais j'ai aperçu un peu les coulisses, comment ça se passait, etc. Je suis également un grand consommateur de médias traditionnels et j'avoue que le format télévisuel, pour revenir sur l'exemple que tu citais, ne me correspond pas en tout cas dans la production de contenu. Donc voilà, le podcast avec ce micro qu'on m'avait prêté m'offrait cette liberté de ton, de durée, de format, mais aussi cette liberté artistique où, je sais pas, tu suis ton instinct et si t'as une instru qui colle parfaitement avec ce moment-là, bah tu la cales et personne va te dire non. Enfin voilà, tu vois, il y a cette liberté, moi, qui m'attirait beaucoup. Et quand on m'a prêté ce micro, je savais pas trop quoi en faire. J'ai commencé à enregistrer autour de chez moi après avoir déménagé. Donc tu vois, je faisais des petits formats un peu plus libres, sans avoir de ligne directrice précise, mais je voulais offrir un peu des photographies de ce qui m'entourait, des photographies auditives pour le coup. Et donc voilà, le chemin s'est fait, on appelle ça, tu dois savoir en anglais, la sérendipité, un heureux hasard que Roman souhaite raconter son histoire au moment où moi j'ai ce micro-là. Et donc voilà, mais je dirais que le fil rouge, c'est la liberté. Et pour eux, dans la manière de raconter leur récit, et pour moi, dans la manière de le retranscrire avec le montage et tout ce qui s'ensuit, toute la post-production.
Alors justement, en termes de production, en termes de réalisation, tu as choisi, je pense notamment à la saison 1, de retranscrire ça de manière très... J'imagine que ça a été très monté aussi, mais l'écoute en est très brute, finalement. Est-ce que tu peux me parler de cette intention ?
Alors, pour être tout à fait franc, c'est que j'avais donc un micro Zoom H4. J'imagine que tes auditeurs connaissent un petit peu.
C'est le même que j'ai sur mon bureau.
Ouais. Voilà, donc un Zoom H4 qui est parfait pour prendre des ambiances, pour enregistrer de façon... Enfin, quand t'es en mouvement, quand t'es en mode nomade. Donc, j'avais ce micro-là. Je découvrais du coup tout juste comment ça fonctionnait. Au final, je l'ai posé un petit peu à l'arrache sur ma table de salon, sans trop orienter ni rien. Et c'est ça le côté brut en fait, c'est qu'on entend aussi quand Roman se gratte le cou ou qu'il remet sa chemise, on l'entend. Disons que l'intention était de ne pas avoir trop de préparation. Et c'est ce qui a rajouté ce charme-là. Enfin, aujourd'hui, je trouve que c'est du charme. C'est le charme de l'authenticité. Mais voilà, au début, j'ai tout fait pour justement... le fait d'avoir ce petit handicap-là au départ sur la prise de son, ça m'a poussé à faire énormément de recherches sur les manières de le retranscrire de la meilleure façon possible avec ce petit handicap-là. Et c'est ce qui m'a fait aussi énormément progresser parce que j'ai passé du temps à checker en théorie, puis à mettre en pratique, à faire des tests, à revenir en arrière, à refaire des tests. Et c'est marrant parce que quand il a été nommé au concours Phonurgia Nova Awards, donc il y avait un parterre de spécialistes qui débriefaient sur ce podcast-là. Et ils ont démarré en disant ce que je prenais pour une faiblesse au départ, donc ce côté brut où on entend tout ce qui se passe dans la pièce. Ils l'ont pris pour un parti pris artistique. Et, et ça me va très bien. Moi, je dis amen, tant mieux.
mais c'est vrai que ça rajoute en fait finalement à l'atmosphère, ouais, du témoignage. T'as l'impression d'être, je sais pas, moi, je m'imagine dans une pièce un peu sombre de ton appart à écouter Roman. Enfin, on a l'impression un peu d'y être.
Ouais, c'est ce qui en ressort beaucoup et c'est très bien. Et tu vois, sur la deuxième saison, du coup, vu que je suis dans une phase d'exploration, de progression, j'investis dans un micro dynamique pour le faire d'une toute autre manière. Et donc voilà, ça me permet aussi, moi, d'être stimulé techniquement, on va dire. Au-delà du fait que j'aide mes amis à raconter leurs histoires et que ça me touche au plus profond de moi-même, j'essaie de garder ce côté, je dois progresser là-dedans parce que j'aime ça. Et donc, je tente des choses et tu vois, le prochain format que je ferai, ce sera peut-être une forme totalement différente. J'aime bien, en tant qu'observateur et auditeur, j'aime bien être surpris quand il y a des artistes qui font des choses que j'apprécie. Donc, j'essaie d'avoir... Enfin, je me force pas, en fait. J'ai envie d'avoir... ça fait partie de mon identité d'auditeur et je veux que ça fasse partie de mon identité de créateur de contenu.
Justement, quand on se lance, c'est pas toujours évident, tu le disais. En plus, tu viens pas forcément de ce milieu-là, de la radio, du podcast, même si tu as fait un peu de journalisme aussi quand même avant. En tant que podcasteur indépendant, on découvre souvent sur le tard qu'on doit porter en fait bien plus qu'une casquette. Créateur, intervieweur, marketeur, tu en as fait un peu du marketing aussi. Producteur, réalisateur, enfin bref, il y en a plein d'autres. Est-ce que tu t'es fait aider ? Avec quel budget finalement est-ce que tu t'es lancé ? Puisque je crois que la première saison, tu bossais en parallèle encore.
Ouais. En gros, la première saison, je bossais en parallèle dans une agence de communication. J'étais consultant en contenu. Donc, il y a un mini lien avec le podcast, du coup. Et disons que je me suis familiarisé avec les coulisses du podcast grâce à cette expérience-là, puisque j'avais des clients qui s'intéressaient de plus en plus au podcast. J'essayais de les sensibiliser aussi en leur montrant tous les attraits de ce format-là, qui est pas si nouveau que ça, mais qui a commencé à prendre beaucoup d'ampleur. Donc voilà, je me suis familiarisé un petit peu avec ce monde-là. Ensuite, comme tu dis, il y a ces multiples casquettes, réal, direction artistique, intervieweur, la phase de com aussi. J'entends beaucoup de podcasteurs qui disent que c'est la phase la plus fastidieuse parce que ça demande énormément de temps. Tu as l'impression de te battre contre le vent parfois, mais ça fait partie du jeu. Et disons que tout le travail qu'il y a à faire autour du podcast après la prise de son, ça correspond à des choses qui m'intéressent, enfin, que j'étais curieux de découvrir, soit que j'avais déjà un petit peu traversé avant, comme la phase de com, par exemple. Et du coup, les choses que je désirais découvrir, j'y suis allé tête baissée avec grand plaisir à m'inspirer de ce qui se faisait un petit peu autour, sur la réalisation notamment, sur la partie réalisation et montage. Et sur la partie com, j'ai tâché d'avoir des idées un peu malignes et surtout essayer d'ouvrir des portes qui paraissaient fermées en contactant des gens qui me semblaient intéressants, en allant sur des événements, en échangeant avec d'autres podcasteurs. Et ensuite, voilà, la réponse ne serait pas complète si je ne parlais pas des gens qui m'ont aidé, d'un point de vue très pratique. Donc des amis qui ont fait la couverture du podcast, donc Camille et Manu, mon pote Amine qui a fait les instrus, mon pote Sinan qui a pris les photos. Enfin voilà, ça a été un travail, je dirais, collectif avec une ligne directrice que j'avais très clairement en tête. Et c'est ce qui m'a aidé à faire ces deux saisons-là avec un budget de zéro, hormis l'achat du micro que tu vois là en visio,
pour
que
la saison 2.
On voit pas, mais ouais, voilà. Mais c'est vraiment zéro, tu vois, y compris sur l'hébergeur. J'étais chez un hébergeur gratuit au début. Ensuite, j'ai eu une offre pour un autre hébergeur qui me le fait gratuitement, qui est payant normalement. Enfin, c'est voilà, beaucoup de discussions, beaucoup de débrouilles et je dirais un petit peu d'audace aussi parce que voilà, je me suis rendu compte que j'avais passé quand même énormément de temps sur ces projets-là, que j'avais fait le choix de ne pas mettre de pub, pas de sponsor ni rien, parce que je souhaitais pas gagner quoi que ce soit avec cette histoire-là, qui est une histoire qui me touche personnellement, et voilà. Donc je me suis dit, bon, bah, autant aller à fond sur tout le reste, et il y a les têtes baissées, et ma rémunération à moi, c'est la reconnaissance, c'est l'interview qu'on est en train de faire, c'est voilà. Et tout ça constitue aujourd'hui la vitrine de ce que je peux proposer derrière, puisque je vais proposer du conseil en podcast là à partir du mois de septembre. Tout ce travail-là m'a aidé à être un peu identifié par des gens de ce milieu-là et à avoir une crédibilité, avoir quelque chose à proposer aussi de concret aux futurs clients que je pourrais avoir.
Ton podcast t'a amené à créer Racontez-leur, c'est ça? C'est dans cet ordre-là que ça s'est passé. Tu parles de ton approche professionnalisante, tu cherches à gagner de plus en plus de compétences, tu cherches à progresser, tu cherches à apprendre, t'oses poser des questions. Comment est-ce que le déclic finalement s'est fait pour toi de dire « Ok, Racontez-leur, ça va être mon job en fait, ça va être plus que l'intention initiale finalement ?»
Pour être franc, ma ligne directrice, c'est le plaisir. Avant toute chose. Mm-hmm. Donc ça a
c'est
démarré
important.
Comme ça. De quoi?
C'est important.
Ouais, c'est central dans ma vie. Et je me suis dit, bon, bah voilà, il y a ce projet-là. J'ai envie de. Je ne me voyais pas le faire en mon nom non plus, puisque comme je te l'ai dit, j'ai des amis qui m'ont aidé, qui ont apporté leurs compétences donc en graphisme, en beatmaking, en photographie. Et voilà, je ne voulais pas que ce soit fait en mon nom uniquement. Donc je me suis dit, on va trouver un nom pour ce truc-là, ce genre de collectif qui n'est pas figé du tout, qui est en mouvement. Enfin, tu vois, il y a des nouvelles têtes qui arrivent, d'autres qui sont sur d'autres projets. Enfin, voilà, chacun mène sa vie comme il veut, mais la ligne rouge, le fil rouge, pardon, c'est ça. Et donc ça s'est fait très naturellement. De base, ce nom-là et ce collectif-là, il a été posé pour englober l'ensemble des gens qui m'ont aidé sur ce projet. Et les impliquer aussi d'une certaine manière. Et en fait, petit à petit, la dimension professionnalisante, elle s'est surtout, je l'ai surtout comprise à travers les rencontres que j'ai faites, où tu vois, les gens, à chaque fois, ils demandent, bon, bah, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Tu croises d'autres gens, y compris des professionnels, qui disent, bon, bah, c'est quoi la suite? T'aimerais pas faire ça? T'as des gens qui te proposent des choses ou qui t'ouvrent leurs portes, du moins. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, il y a un truc à faire là-dedans et ça tombe bien parce que j'adore ce format-là et tout ce qui tourne autour de ce format-là. Donc c'est de l'opportunisme pas trop calculé, mais là aujourd'hui j'en suis sûr, c'est ma carrière professionnelle va tourner autour de ce format-là au moins dans les 2-3 prochaines années. Et c'est aussi voilà, un format d'indépendance, de travail indépendant qui me va très bien puisque j'aime beaucoup voyager. Et moi, dans un monde idéal, je travaille 3 jours par semaine et le reste du temps, je me fais plaisir. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait cette année-là. Et ça me va très bien, tu vois, avoir ce...
Ça a l'air de te réussir, donc tant mieux.
Ouais, après, il y a d'autres paramètres de l'ombre qu'il faut régler. Mais,
ouais.
Mais ouais, en tout cas, moi, très personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je pense que ça correspond un petit peu au nouveau monde qu'on a fantasmé post-Covid. Cette liberté de travailler dans le domaine qu'on souhaite, cette liberté de bouger là où on veut bouger, de découvrir des choses, d'être en mouvement, de faire des rencontres. Donc voilà, le podcast, ce format-là, me permet de trouver le bon compromis, le bon équilibre sur tous les autres aspects de ma vie. Donc ça arrive un peu comme, disons que c'est l'opportunisme logique, quoi.
J'ai ressenti ça comme un viol. Ça a eu un impact fou dans notre vie. en nous filmant à même le sol, sans aider, en prenant cette photo volée. Pour la première fois de ma vie, j'ai remis en question le rôle des journalistes et au tout départ, aux Invalides, c'était un repère de vautours. Il y avait des journalistes qui venaient, il y avait des journalistes qui passaient en douce, il y avait des journalistes qui avaient essayé de rentrer dans ma chambre à la Salpêtrière. On était contactés par plein de journalistes. On s'entend tout de suite que c'était pas pour nous rencontrer, c'était pour observer les dégâts.
Le futur d'Antoine, professionnellement du moins, il le voit donc clairement à l'audio. De la création d'albums de souvenirs audio pour particuliers, du conseil à la création de podcasts pour entreprises, mais aussi et surtout du plaisir. Vous l'avez compris, c'est une composante très importante pour Antoine. Et dans le plaisir, c'est l'exploration sur des projets aussi bien documentaires que fiction. Et côté personnel, à quand est-ce que remonte la plongée d'Antoine dans le monde du podcast ? Côté auditeur, donc.
2016-2017. En gros, moi, je suis parisien, j'ai grandi à Paris et j'étais souvent entouré avec mes potes, machin. Et j'ai déménagé en 2016, je crois, à Aix-en-Provence pour le boulot pendant un an et demi. Et donc, j'ai commencé à découvrir un petit peu ce que c'était que d'avoir du temps pour soi. Et c'est là que j'ai découvert les podcasts. Le tout premier sur lequel j'ai vraiment accroché, c'est Transfert. Après, j'ai vite enchaîné sur les braqueurs de Arte Radio. Donc, j'ai mis un pied chez Arte Radio. J'ai découvert tout ce qu'ils faisaient. Franchement, c'est un musée, le truc. C'est trop bien. Donc, j'ai découvert ces formats-là qui étaient assez connus, assez réputés. Et ensuite, j'ai commencé à découvrir d'autres petits formats. Enfin, je ne sais pas si c'est des petits formats, mais moins exposés, on va dire. Outsider, je ne sais pas si ça te parle. Tu vois, là, en ce moment, il y a Détenu, j'ai beaucoup aimé aussi, de Insider Podcast. Là, j'ai découvert Mèche à Mèche, qui est très bien.
Là, je ne connais pas.
Ça symbolise bien ce que j'aime dans le podcast, c'est que l'idée est bonne. En gros, c'est une coiffeuse qui va donner la parole à certains de ses clients autour d'un, je ne vais pas dire un burn-out capillaire, mais autour d'un grand changement capillaire.
Ah oui, d'accord. Pourquoi ils veulent changer de tête
Ouais. Et puis, ça va un peu derrière. Ça va un peu plus loin aussi, tu vois. J'ai l'exemple d'un mec, un épisode que j'ai beaucoup aimé, qui s'est enfin décidé à se raser la tête parce qu'il commençait à perdre ses cheveux. Et tu vois, la manière dont il a repris confiance en lui après avoir fait ce choix-là, c'est vraiment trop bien.
Peut-on faire un parallèle entre nos histoires de vie et nos histoires de cheveux? Je pense que dans beaucoup de cas, la réponse est oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Clémence, j'ai bientôt 30 ans, et je suis coiffeuse depuis maintenant 10 ans. Du haut de ma modeste expérience en salon, que ça soit haut de gamme, branché, ou même dans un cadre associatif, j'ai constaté que très souvent, pour beaucoup de monde, les femmes, les hommes, pour les petits comme pour les grands, nos cheveux jouent un rôle dans nos vies. C'est ce que j'appelle le hair empowerment. Ces cheveux, qu'ils soient présents ou pas, peuvent changer en fonction de nos changements de vie.
Mèche à mèche, je le conseille à tout le monde.
Génial.
Et Clémence, okay. Celle qui fait ce podcast-là, que je ne connais pas personnellement, que je ne connais pas du tout, elle a une bienveillance, un positivisme, elle est intelligente dans son propos. Enfin, franchement, ça représente bien ce que j'apprécie dans
bien.
Le podcast. ce que j'aime dans le podcast, c'est que tu tombes sur des sujets complètement random qui t'accrochent parce que tu tombes sur quelqu'un qui sait mener sa barque et c'est hyper agréable sur des sujets. Enfin, tu vois, moi, la coiffure de base, comme tu peux le voir, c'est pas ma spécialité.
Comme tu peux le voir non plus, pour moi non plus.
Mais ouais. Elle le gère très bien. J'aime beaucoup la manière dont c'est fait. Et c'est ça le podcast.
Génial. Ton dernier binge de podcast, c'était quoi?
C'était Tonton Flingueur de Arte. C'est ça aussi, typiquement ce que j'aime. Moi, j'aime bien toutes les histoires qui touchent au grand banditisme, au milieu carcéral, etc. Donc, tu vois, Arte Radio, dans la lignée de Cracopolis, Flicopolis, Les Braqueurs, ils ont sorti Tonton Flingueur. Je crois que c'est Tonton Flingueur, ça te parle ou pas?
Si, mais qui est sorti il n'y a pas de 13 ans, ouais. Genre au début de l'été ou un
ouais,
truc
ouais,
comme
il
ça,
est sorti cet été. C'est un ancien, en gros, de la pègre. Corse, enfin il était en Corse, à Marseille, etc., qui raconte son histoire. Et ouais, celui-là, je l'ai avalé comme ça d'une traite.
Après vérification, je me dois de faire une toute petite correction. En fait, Antoine fait référence à Le Trafiquant, qui est une série en 8 épisodes, qui est sortie également sur Arte Radio et également cet été, et qui parle effectivement d'un truand, un trafiquant, quoi, qui est né en Corse et qui faisait partie de la French Connection, qui était donc basée à Marseille. C'est d'ailleurs aussi une série que je vous recommande très sincèrement. Moi, c'est ce que j'ai écouté en repeignant mon bureau cet été. Tonton Flingueur, c'est aussi un podcast d'Arte Radio en 4 épisodes, mais cette fois-ci, ça se passe plutôt à Paris.
Et un autre format que j'ai beaucoup apprécié, alors il faut que je te retrouve le titre, c'est le récit de 2 ou 3 femmes afghanes qui sont en correspondance avec...
Inside Kaboul.
Ouais, exactement. Inside Kaboul.
C'est sur France Inter, hein, je crois. Ou un truc de Radio France.
C'est France Inter,
je l'ai dévoré aussi cet été.
C'est trop bien.
Des échanges d'audio.
Ouais.
Ils ont fait quoi? Un épisode par mois, en fait, pendant un an, depuis la prise de Kaboul à maintenant,
c'est ça? Je crois que ça devait durer un mois. Ils se sont rendus compte que les...
L'histoire ne s'arrêtait pas là.
Ouais.
Ceci est l'histoire d'une correspondance. C'est vieux, les correspondances. Vieux comme les guerres. Ceci est l'histoire d'une correspondance de guerre et d'exil. Avec 2 jeunes femmes, elles ont 20 ans et elles enregistrent des notes vocales. En août 2021, les talibans prennent Kaboul. Il y a sur nos écrans les images de leur arrivée dans les rues de la capitale afghane. Il y a la terreur et l'aéroport rempli de ceux et celles qui tentent de fuir. Je me demande depuis Paris ce qui se passe dans les appartements, comment on vit ce bouleversement dans les salons, dans les familles et quand on est une femme. Une connaissance là-bas me donne les contacts de 2 de ses copines anglophones, Raha et Marwa. Je leur propose de me raconter ce qu'elles voient et ce qu'elles ressentent.
Caroline, I hope everything is going well with you.
It's 3 p.m. in the afternoon, Kabul.
Elles acceptent tout de suite. Ce sera donc 2 histoires qui vont se répondre et pour les relier, vous m'entendrez moi. Je m'appelle Caroline Gillet.
C'est comme toi en fait ton approche quoi, c'est et l'après,
qu'est-ce
qui se passe en fait?
Bah tu vois, typiquement entre la saison 1, après la saison 1, il y a pas mal de gens qui me disaient mais alors ils sont toujours ensemble, Roman et Jessica, ah il manque un truc sur Jessica, et j'avoue qu'en le faisant, j'avais en tête que Jessica allait parler derrière, mais si jamais elle l'avait pas fait, ça aurait été dommage parce que les gens auraient pas eu toute la splendeur de cette histoire-là, puisque Jessica, je trouve qu'elle la raconte très bien et qu'elle témoigne ouvertement de son amour pour Roman, et c'est trop bien quoi. Donc ouais, je suis hyper content qu'elle ait accepté de jouer le jeu et que les auditeurs aient aussi l'histoire de la manière la plus exhaustive possible. En tout cas, leur histoire d'amour, elle est assez exhaustive.
Quel est l'impact que tu espérais avoir? T'en as parlé un petit peu, finalement c'était cathartique, finalement autant pour toi que pour tes amis. Et est-ce que cet impact et peut-être cette ambition initiale a évolué du coup avec une deuxième saison, avec en plus il y a eu une belle réception, t'as été récompensé, donc je veux dire c'est pas un projet qui reste dans ton coin finalement.
Ouais, disons que les attentes ont évolué avec le temps. Comme je l'évoquais tout à l'heure, la première attente de base sur le podcast de Roman, c'était vraiment pour l'accompagner dans une étape de sa reconstruction. Il le dit lui-même dans le podcast, quand tu commences à parler, c'est que tu es déjà un petit peu guéri, un peu réparé. Et donc ça, c'était vraiment le projet de base. Et puis voilà, l'accompagner à ma façon, comme j'ai toujours essayé de le faire. Donc au début, c'était en faisant l'éponge, et là maintenant, c'est en l'aidant à diffuser son récit et à poser des mots dessus. Donc ça, ambition de base. Après, je me suis dit, vu que j'ai passé quand même du temps dessus, je vais postuler à des concours, on ne sait jamais. Donc après, ça a été sélectionné. Donc là, l'ambition, c'était de les gagner. Je n'ai pas gagné, mais rien que le fait d'y être, c'était complètement inattendu.
C'était déjà une belle reconnaissance, ouais.
Grave. Et ensuite, en faisant la saison 2, je suis reparti de l'ambition là où je m'étais arrêté. Donc l'idée, c'est pareil, d'accompagner Jessica, donc tout comme Roman. Mais aussi, là, j'ai postulé à des concours. On va voir ce que ça donne. Les résultats, enfin, la sélection n'est pas encore arrivée. Le défi personnel après l'enregistrement et la diffusion du podcast de Jessica, c'était aussi de faire des interviews sous une autre forme que des interviews retranscrites à l'écrit, donc comme on est en train de faire là. Et voilà, le but, c'est de tout faire pour diffuser au maximum leurs paroles, donc avec des mécaniques plus ou moins classiques, mais tu vois, j'ai envoyé des mails à la terre entière, quand je croise des gens dehors, j'en parle, enfin c'est
un... Mais tu vis ton projet, quoi.
Ouais, vraiment, ouais, c'est un truc qui, bah, tu vois, déjà de base, l'histoire, elle fait un peu partie de moi, même si j'étais pas sur place, elle fait partie de moi, elle fait partie de ma construction aussi. Et elle fait partie de ma propre histoire aujourd'hui, je peux le dire.
J'ai envie de rebondir sur un truc que tu as dit. Tu as utilisé le mot éponge. Mmh. Comment est-ce que, je veux dire, recueillir, ça peut être aussi très lourd. Mmh. Comme tu le dis, ça fait partie de ton histoire à la fois personnelle et de ta construction professionnelle. Mmh. Comment est-ce que... tu te protèges finalement dans le recueil de ces témoignages. Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça, enfin, j'imagine que ça n'a pas été facile tous les jours. Mmh. T'as pas recueilli tout ça en une fois, si?
Si. Enfin, Roman s'est fait en une fois. Ouais. Ça a duré 4h30. Celui-là, je l'ai monté chez moi à Paris, mais en parallèle de mon boulot. Ce qui fait que je bossais le soir. Enfin, tu vois, j'avais quand même la soupape de décompression, entre guillemets, avec le travail et les sorties avec les potes, le sport, etc. Et donc, voilà, tous ces éléments-là autour des moments où je travaillais sur le podcast me permettaient de sortir de ce truc-là et de respirer un peu. Et sur le deuxième, alors j'ai enregistré Jessica en octobre. Et 3 jours après, je partais pour quelques mois en Amérique centrale. Et je ne sais pas si je l'ai fait consciemment, mais du coup, tu vois, je faisais mon voyage. Quand il pleuvait, parce que c'était la saison des pluies, bah, je bossais sur le podcast. Et derrière, je suis rentré à Paris, je continuais de bosser dessus. Après, je suis parti quelques mois au Maroc aussi, tout en bossant sur le truc. Et tu vois, c'était un peu ça, ma façon inconsciente.
Ça permettait de couper finalement aussi.
Ça n'a pas été calculé, mais avec du recul, je pense que je l'ai fait pour ça aussi. Histoire de, bah, tu vois, quand tu es confronté à ce que l'être humain peut faire de plus horrible et une attaque terroriste de plus beau en même temps avec l'amour qu'eux ressentent, ça fait beaucoup d'émotions d'un coup, donc, et beaucoup de dons de soi aussi, le fait de travailler dessus. Donc voilà, j'ai fait des trucs assez, entre guillemets, égoïstes pendant ces montages-là où je suis parti tout seul et je faisais ma vie, du surf, des randos, des rencontres, enfin voilà, tu vois, très bon équilibre, Si quelqu'un veut me proposer le même type d'équilibre pour l'année prochaine, je prends.
Je prends.
De type rémunéré, bien sûr.
Le message est passé. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné, en fait, qui t'a, je sais pas, particulièrement aidé, dont tu pourrais faire bénéficier des gens qui cherchent à se lancer, qui ont envie de raconter des histoires fortes, par exemple?
Alors, j'ai un conseil qui me vient en tête, mais qu'on m'a pas donné... après le lancement du podcast, mais plutôt avant, dans mon ancienne boîte où je faisais du conseil pour des entreprises, où on conseillait toujours aux boîtes d'être, vrai, authentique, machin. Et voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu et je me suis dit, bon, bah, là, il faut que ça le soit, d'autant plus que c'est sur du podcast, c'est le média authentique par excellence. Et donc je pense qu'il faut le jouer vrai, faut pas avoir une cible précise en tête comme on ferait en marketing, en tout cas sur des histoires fortes comme ça. Faut le faire pour que ton locuteur, pour que la personne qui est interviewée soit fière du rendu final. Je dis ça, après c'est un peu facile parce que c'est des gens que j'aimais déjà avant de faire le format, mais c'est vraiment un truc sur ce type de récit là. Moi, la pire des réactions, ça aurait été qu'ils me disent « Ah ouais, putain, c'est dommage, tu vois, ça aurait pu être mieux. » Donc moi, j'avais ce truc-là, ouais, vraiment, les rendre fiers, tout raconter, enfin, être transparent totalement. Je fais le parallèle avec les entreprises parce que c'est ce qui m'animait avant de lancer le podcast, mais c'est vraiment tout ce qu'on recherche aujourd'hui chez les entreprises, quoi, de la sincérité, de la transparence, de l'authenticité et de l'humanité aussi. Donc voilà, moi j'ai beaucoup misé là-dessus et quand j'écoute des podcasts, j'aime que les podcasteurs misent là-dessus aussi. Et voilà, après, un autre conseil qui peut être utile sur les podcasteurs que je me suis appliqué à moi-même, c'est pas trop faire de syndrome de l'imposteur. Tu vois, quand tu fais ton montage, évidemment, toi, tu as conscience de toutes les failles de ton format. Mais il y a des petites mécaniques à trouver. Je ne sais pas, moi, parfois, je rajoutais une petite instru en fond qui me permettait de cacher une erreur de montage, en tout cas, que moi, j'entendais à chaque fois que j'écoutais. Mais un auditeur lambda ne va pas tiquer dessus. Enfin, tu le masques un petit peu, tu l'habilles. Et voilà, tu diminues un petit peu l'impact de ce petit hic auditif. Et puis voilà, le dernier truc, c'est de foncer, de se faire plaisir. Enfin, faut y aller, quoi. Si t'as envie de faire du podcast, fais du podcast. Il y en a qui en font avec le téléphone, donc il n'y a pas de limite.
Est-ce que ta relation, en fait, avec Roman et Jessica a évolué suite à ces enregistrements, à la diffusion d'une partie à la fois intime et publique, en fait, de leur histoire, chacun ?
Très bonne question. Très bonne question. Oui, forcément, elle a évolué parce qu'on a partagé... Enfin, ces heures d'enregistrement, c'était des moments dont on se rappellera pendant très longtemps. Avec Roman, on était déjà très proches. On se connaît depuis qu'on a 6-7 ans, un truc comme ça. On s'est connus à Porte de Vincennes, à l'école. Mais on n'avait jamais eu ce rapport-là de confession aussi exhaustif. Et après cet enregistrement-là, on a eu un truc en commun, c'est qu'on a eu mal au bide le lendemain. Enfin, tu vois, c'était assez particulier. Et donc, ouais, là, Roman, il a une reconnaissance envers moi, j'en ai une envers lui aussi. On s'est vraiment poussé à faire des choses qu'on n'avait jamais faites l'un et l'autre. Et c'est génial, quoi. C'est des amitiés qui te font évoluer. C'est souvent en amour, on dit j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me pousse à m'élever, etc. En amitié, c'est la même chose. Donc là, c'était le cas avec Roman. Et avec Jessica, c'est marrant parce qu'on a toujours eu un rapport. On se connaît depuis longtemps aussi, depuis le lycée à Port-de-Vincennes aussi. Et on a toujours eu un rapport un peu beaucoup de second degré et du mal à se dire les choses. Enfin, c'est vraiment beaucoup de déconnades et beaucoup de petites piques. C'est un peu notre manière de communiquer aussi, mais des piques bienveillantes toujours. Et là, le fait de l'avoir... Enfin, je sais pas, quand elle s'est confiée, j'ai appelé Roman derrière. Je lui ai dit, putain, mais ta copine, elle est exceptionnelle. Tu sais, quand elle parlait, elle était toute douce, elle était lucide, intelligente, elle était belle. Enfin, j'ai vu une autre facette de Jessica qu'elle cache souvent. Mais du coup, là, elle s'est totalement ouverte. Depuis, on débriefe, tu vois, on parle de nos familles. On est assez pudiques globalement tous les deux sur les trucs très perso. Et là, ça a évolué dans ce sens-là, tu vois. J'ai l'impression de connaître un peu sa famille parce qu'on en a beaucoup parlé. Ça a évolué que dans le positif. C'est un pas de plus dans nos liens qui sont encore plus forts, quoi, qui se sont renforcés grâce à ça. Donc c'est pour ça aussi que sur les prochains formats, j'ai envie de... J'ai pas mal de potes qui ont des singularités, pas forcément les mêmes que Roman et Jessica, mais qui ont des histoires un peu particulières, et j'aimerais aussi les traiter parce que je pense que ce groupe de potes, c'est un puits sans fond. Il y a des trucs à raconter que nous, on s'en rend pas forcément compte parce que ça fait partie de l'histoire de nos potes, on les connaît, machin, mais il y a des choses qui sont extraordinaires, quoi. Il y a vraiment des choses à raconter. Et puis aussi, personnellement, dans nos amitiés, si ça nous permet d'aller voir encore plus loin, c'est magnifique.
Antoine, pour terminer, une question que j'aime beaucoup poser à mes invités. J'aime en fait continuer finalement la conversation. On a parlé de gens en fait qui t'inspiraient toi au quotidien dans tes amitiés. Tu aspires à te professionnaliser encore plus dans le monde du podcast. Qui est-ce que t'aimerais entendre dans Génération Podcast ? Est-ce que, je sais pas, il y a une question, un thème que tu voudrais particulièrement aborder avec quelqu'un ?
Alors, qui j'aimerais entendre, moi, c'est Ilham Mad. Mm-hmm. que tu dois connaître, qui a bossé donc pour Arte, elle a changé, je crois, je sais plus chez qui elle est, mais Ilham Mad, j'ai eu la chance de discuter avec elle une fois pendant une heure au téléphone. Déjà, elle est hyper cool, donc ça, c'est un avantage. Et en plus, alors j'ai peut-être une image biaisée, mais je la vois vraiment comme un pilier dans le monde du podcast aujourd'hui. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Et elle a fait des formats qui sont géniaux. Je pense à Athée à la menthe, qui se passe au Maroc, que j'ai réécouté du coup quand j'étais au Maroc. Ça prend vraiment tout son sens. Ouais, ça parle du rapport à la religion, etc. Et puis tout simplement, je pense qu'elle a une vision assez globale de ce milieu-là, avec des vraies opinions sur le potentiel du podcast. Et ça m'intéresserait beaucoup de l'écouter.
Merci beaucoup Antoine.
Merci Anne-Fleur. Salut.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Antoine Bonnet de Raconter l'Earth pour sa disponibilité et pour cet échange que j'ai trouvé passionnant. J'espère que vous avez passé un agréable moment vous aussi. Si vous souhaitez suivre la suite des aventures d'Antoine et de Raconter l'Earth, Antoine vous invite à le suivre directement sur Instagram @racontellearth ou sur LinkedIn en cherchant Antoine Bonnet. Si cet épisode vous l'a plu, partagez-le autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, comme vous voulez. Sachez que ce travail est un travail fait de manière complètement indépendante et bénévole, et vos partages m'aident énormément à faire connaître ce travail, justement. Je vous remercie encore une fois d'être là chaque semaine pour nous écouter. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, je compte sur vous pour écouter des podcasts. Salut!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.